Bonjour à chacune et chacun. Merci au groupe de louanges pour ce qu'il nous a apporté. C'est vrai, Jésus-Christ règne. Laissons-lui toute la place dans nos vies pour qu'il règne dans nos cœurs. Le message de ce matin termine la première série des messages des anciens. Dans cette série, nous avons abordé successivement les thèmes de Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le monde invisible, l'homme et l'Église. Voici un bref rappel des thèmes abordés. Tout d'abord, Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Trois personnes distinctes, mais en même temps, trois personnes qui ne font qu'un, et c'est Dieu lui-même, le Dieu trinitaire. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit étaient tous trois actifs dans la création, le salut et les événements importants qui nous sont rapportés dans la Bible, comme par exemple le baptême de Jésus-Christ. Dieu s'est révélé, il s'est donné à connaître des hommes, et il peut être connu dans une relation personnelle. Jésus-Christ, il est l'accomplissement de la loi, le seul moyen de salut. Il est la réalisation du plan de Dieu révélé progressivement dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est aussi pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus-Christ est prophète, il est prêtre, il est roi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, mais en même temps, il est de nature divine. Le rôle du Saint-Esprit dans le salut, par l'appel, la régénération et la sanctification. Le rôle du Saint-Esprit chez le croyant. Le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Le monde invisible. Réalité et nature du monde invisible. Les anges, leur type et leur rôle. Satan et les démons. Le sujet de l'homme ensuite. Son origine et sa place dans la création. L'homme donc créé homme et femme, masculin et féminin, matériel et immatériel. Et enfin, la nature pécheresse de l'homme. L'Église. L'Église est universelle, mais en même temps locale. Notre identité d'Église locale, qu'est-elle ? L'Église, épouse de Christ. L'Église, corps de Christ, dont il est la tête. L'Église, colonne et soutien de la vérité. Et pour ce matin, je vous invite à nous arrêter sur une image de Jésus-Christ, une image que nous trouvons tout au long de la Bible. C'est l'image dans laquelle Jésus-Christ est comparé à un rocher, à un roc, à une pierre. C'est un thème que l'on retrouve très souvent dans la Bible. Il y a en effet de nombreux passages qui font référence à cette image, déjà depuis la Genèse. Par contre, ces différentes images, elles ont plusieurs significations. Et je vous propose de terminer cette première série par le double sujet. Un double sujet, ce n'est pas forcément courant. Jésus-Christ, la pierre angulaire, d'une part, et d'autre part, Jésus-Christ, une pierre d'achoppement. Vous allez vite le comprendre, ces deux sujets y vont de pair. L'un est la réponse à l'autre, l'un est le contrepoids de l'autre. Tout d'abord, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alors, on va commencer par lire quelques versets bibliques qui nous parlent de cette image. On va tout d'abord voir quelques versets dans l'Ancien Testament. On va commencer par le livre d'Ésaïe. C'est vrai que le livre d'Ésaïe contient de nombreuses prophéties qui annoncent la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. Et au chapitre 28, Ésaïe prophétise un ennemi fort et puissant qui jettera par terre Éphraïm. Éphraïm est le royaume du nord d'Israël. Et on trouve au verset 16 la prophétie de la venue de la pierre angulaire, prophétie qui manifestement correspond à Jésus-Christ. Nous lisons donc Ésaïe 28, les versets 14 à 19. Écoutez donc la parole de l'Éternel, homme habitué à la moquerie, vous qui dominez sur ce peuple à Jérusalem. Il ne va pas de main forte, Ésaïe. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. » Et là, je tenais quand même à lire ces versets qui introduisent le verset clé que l'on va lire ensuite, parce qu'il nous montre dans quel état était le peuple hébreu à ce moment-là. C'était pas triste. À cause de cela, au verset 16, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Et maintenant, la réponse de Dieu à l'état d'Israël à ce moment-là. Verset 17, « J'ai établi la droiture comme une règle et la justice comme un fil à plomb. La grêle balayera le refuge de la fausseté et l'eau inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera supprimée. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Chaque fois qu'il passera, il vous emportera, oui, il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul provoquera la terreur. » Mais nous trouvons aussi cette prophétie de la pierre angulaire dans le psaume 118. Ce psaume a été vraisemblablement chanté lors de la reconstruction du temple de Jérusalem, une première fois au moment où ses fondations ont été posées, du temps d'Esdras, et une deuxième fois lors de la dédicace du temple, 4 ans plus tard. Psaume 118, nous lisons les versets 21 à 23. « Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre d'angle, la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. » Mais nous trouvons aussi des références à cette pierre angulaire dans le Nouveau Testament. Et voici la façon comment Jésus a repris à son compte ces deux prophéties que nous venons de lire. Alors ça se passe entre les rameaux et la Pâque. Pendant la semaine qui précède la crucifixion, Jésus dans le temple s'adresse aux chefs religieux. Il a des propos très durs avec eux. Il les met au pied du mur. Il leur raconte une parabole, la parabole des vignerons, dans laquelle un propriétaire plante une vigne. Ce propriétaire équipe cette vigne et il la donne, on dirait aujourd'hui, en fermage à des vignerons. Lorsque la récolte est venue, il envoie ses serviteurs pour recueillir le prix du fermage de la vigne. Les serviteurs sont très mal reçus. Une deuxième équipe de serviteurs envoyée est à nouveau très mal reçue. Le propriétaire envoie alors son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais les vignerons ont tué le fils dans le but de s'emparer de l'héritage. Questionnés sur ce que fera le propriétaire de la vigne, les chefs religieux répondent qu'il fera mourir misérablement ces misérables et qu'il donnera la vigne à d'autres. C'est à ce moment-là que Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Jésus dit clairement qu'ils sont, eux, ceux à qui il s'adresse, les vignerons indignes, et que le royaume de Dieu leur sera enlevé. Et puis plus loin, dans le Nouveau Testament, on voit que l'apôtre Pierre a aussi affirmé cette vérité que Jésus-Christ est la pierre rejetée qui est devenue ensuite la pierre angulaire. On voit ça dans Actes 4. Après avoir guéri un boiteux, Pierre et Jean annonçaient le message du salut en Jésus-Christ. Mais les prêtres, le commandant du temple et les sadducéens étaient excédés de ce que le peuple soit enseigné. Alors ils ont fait arrêter Pierre et Jean. Ils les ont mis en prison parce que c'était le soir. Le lendemain, inutile de vous expliquer que Pierre et Jean ont eu du temps pendant toute la nuit pour réfléchir, le lendemain, ils les ont fait comparaître et leur ont demandé des comptes. C'est alors que Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur a dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est donc une image que l'on trouve dans l'Ancien Testament, que Jésus reprend à son compte et que les apôtres ont souligné aussi tour à tour. Maintenant, quel est le rôle de la pierre angulaire dans une construction? Concrètement, la pierre angulaire sert à renforcer l'angle de deux murs. Quand il y a deux murs, la pierre angulaire, elle est entre ces deux murs et elle sert à les renforcer, à éviter qu'ils ne s'écartent et qu'ils ne finissent par s'écrouler. Alors c'est vrai que dans la construction, l'arrivée du béton armé ces dernières années, dans les techniques de construction, a été une révolution. Parce que le béton armé, lui, il reprend, il accepte les efforts de traction, les efforts qui tirent. Ce que les constructions en maçonnerie ou en pierre, ou en pierre de taille, ont de la difficulté à faire. Mais du temps du Seigneur Jésus, le béton armé n'existait pas. Et les constructeurs, ils usaient de certaines techniques pour faire face aux efforts de traction dans la structure des bâtiments. Et la pierre d'angle est une de ces techniques. Il s'agit en fait d'une superposition de pierres, généralement taillées, qui pénètrent tantôt dans un mur, tantôt dans l'autre. De cette façon, elle relie les deux murs au niveau de l'angle et du changement de direction. Maintenant, on va faire un petit exercice, très facile, tout le monde peut le faire. Et c'est un exercice qui nous aide à apprécier l'efficacité du système de la pierre angulaire. Vous écartez les quatre doigts de vos deux mains. Alors, je crois qu'il n'y a pas de manchot dans la salle, tout le monde peut le faire. Vous écartez les quatre doigts des deux mains. Et ensuite, vous placez les quatre doigts de la main droite entre les doigts de la main gauche. C'est bon, tout le monde a réussi, c'est pas trop compliqué. Ensuite, vous serrez un petit peu, pas trop, c'est pas la peine de serrer beaucoup. Puis quand vous avez serré un petit peu, vous essayez de séparer. Puis là, vous voyez que, étonnamment, ça tient bien, c'est solide. On constate alors que les deux mains sont solidement assemblées. La solidité, en fait, elle provient de l'assemblage comme en pierre d'angle, mais la solidité, elle provient aussi de la pression, la petite pression que vous avez exercée entre vos doigts. Et dans une construction, cette pression, elle est donnée par le poids du bâtiment, le poids des pierres qui sont empilées sur chaque mur. Et ces pierres, dans l'image de l'Église, dans l'image du temple, dans l'image de l'Église, ces pierres, c'est nous. C'est nous parce qu'en fait, on lit en deux pierres, deux cinq, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Mais Paul nous dit aussi dans Éphésiens 2, les versets 20 à 22, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Tout l'édifice, c'est-à-dire le temple de Dieu, C'est le fondement posé par les apôtres et les prophètes, mais c'est aussi Jésus-Christ lui-même, et c'est aussi le reste de l'édifice, c'est-à-dire toutes les pierres que nous représentons. On peut alors dire que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors, je viens d'expliquer que la construction avec le principe de la pierre angulaire sert à renforcer deux murs. Deux murs, évidemment, qui forment un angle entre eux, l'un par rapport à l'autre. Deux murs qui ont des orientations différentes. Si le premier mur est orienté nord-sud, l'autre sera donc orienté est-ouest, et vice-versa. Vous voyez peut-être là où je veux en venir. Dans notre Église, il y a aussi des orientations différentes. Mais dans cette image que nous représente la construction du temple, les orientations différentes des murs ne posent pas de problème. Mais, et c'est là que c'est important, mais un soin tout particulier est apporté à la façon comment ils sont réunis, comment ils sont assemblés. Pour nous, c'est pareil. Pour illustrer le point suivant, on va refaire l'exercice de tout à l'heure avec une petite variante. Vous prenez, vous écartez les doigts de chaque main, mais au lieu de les mettre perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, vous les mettez dans la même direction. Essayez, vous verrez. Et puis quand vous allez commencer à serrer, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que justement, ils sont dans la même direction. Un autre exemple. Vous voyez le paravent qui est au fond derrière la sono. Ce paravent, en fait, il est constitué de plusieurs panneaux. De plusieurs panneaux qui sont réunis par des articulations. Ce sont les tiges verticales en aluminium. Et ce paravent, actuellement, il est stable. Il n'a pas forcément tendance à tomber, heureusement, pour Clément et pour Paul. Imaginez un petit peu qu'on aligne les quatre panneaux. On peut, hein, puisque ce sont des articulations. Mais moi, je vous dis que si on aligne ces quatre panneaux, on va se retrouver dans un équilibre très instable. Au premier courant d'air de la droite, pouf, ils vont tomber à gauche. Au premier courant d'air de la gauche, pouf, ils vont tomber à droite. Dans l'Église, c'est la même chose. Nous sommes des pierres vivantes et c'est comme si nous formions des murs. Des murs qui ont forcément des orientations différentes. Mais ce qui fait la solidité de l'Église, c'est ce qui relie ces murs. Ce qui nous relie les uns aux autres, c'est Jésus-Christ, qui est lui la pierre angulaire. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien que ce soit lui qui nous relie. C'est très bien que la solidité soit en Christ. Parce qu'en fait, comme la solidité est en Jésus-Christ, on n'est pas tenté de mettre notre confiance en nous-mêmes. On ne peut la mettre qu'en Jésus-Christ, qu'en lui seul. C'est lui et lui seul qui peut nous réunir. C'est lui qui nous réunit et qui rend son Église solide. Mais maintenant, il y a une question importante qui se pose. Peut-il y avoir, dans une seule Église, des orientations différentes ? Peut-on, dans l'Église du Seigneur, penser différemment les uns des autres ? Comment faire la part des choses entre des orientations qui peuvent être différentes et le fondement solide et donc unique posé par les apôtres et les prophètes ? Et là, je vous invite à lire quelques versets dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, les versets 11 à 14. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. L'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Les choses qu'on espère, ce sont les choses que l'on ne voit pas, mais qui sont bien réelles pourtant. Le point de départ de la foi consiste à croire en la personne de Dieu. Il est qui il dit être. Le point final de la foi consiste à croire à ses promesses. Il fera ce qu'il dit. Lorsque nous croyons que Dieu accomplira ses promesses, sans pour autant les voir se concrétiser, nous démontrons la réalité de notre foi. Nous avons vu tout à l'heure que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce fondement, tout comme notre foi, est unique. Il n'y en a pas plusieurs. Il doit y avoir unité de fondement, de foi et de salut dans l'Église de Jésus-Christ. En revanche, il peut y avoir des compréhensions différentes. Tout d'abord, parce que nous sommes nous-mêmes en changement. Je vous rappelle Éphésiens 4, 13, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous, et un peu plus loin, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Nous sommes en changement. Mais il peut y avoir aussi des compréhensions différentes sur des sujets sur lesquels la Bible elle-même permet ces compréhensions différentes. Et là, je vous invite à lire la recommandation que l'apôtre Paul, en Romains 14, donne concernant la liberté de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ce n'était pas une mince histoire à l'époque, cette question de viande sacrifiée aux idoles, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sacrifices d'animaux, il y avait beaucoup d'idoles qui étaient vénérées, et ce n'était pas évident pour les premiers chrétiens de savoir est-ce qu'on peut ou pas manger cette viande qui a été sacrifiée aux idoles. Romains 14, 19 à 23. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Péché dans le sens de éloignement de Dieu, séparation de Dieu. Et là, c'est intéressant de voir que manger de la viande sacrifiée aux idoles n'est pas un problème pour Dieu. Pas pour moi non plus. Mais si cela a pour mes frères des conséquences, alors je ne vais pas en manger. On peut être surpris que certaines choses ne sont pas importantes pour Dieu, alors que d'autres sont très importantes. Essayons aussi dans notre vie de retrouver au niveau des importances ce qui correspond à la volonté de Dieu en fait. Jésus-Christ est le centre de notre unité. Seul Jésus-Christ, lui qui est notre unité, peut accomplir ce rôle de lien entre nos murs qui ont des orientations différentes. Alors pour nous aider à laisser Jésus-Christ seul être celui qui nous unit, ben moi je vous invite à lire ce qui est inscrit sur le tableau là-bas au fond de la salle, à vous l'approprier, à le relire peut-être si vous avez besoin, c'est important. Il n'y a pas de perdants d'un côté et des gagnants de l'autre. Il n'y a que des pierres qui ont pour vocation d'être vivantes et qui n'ont qu'à se laisser unir par la divine pierre angulaire. Et c'est encore Pierre qui nous dit ceci, 1 Pierre 2, versets 4 à 6. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Crois-tu cela? Le deuxième point maintenant. Je vous rassure, je serai plus court sur ce deuxième point. Jésus-Christ, une pierre d'achoppement. C'est important de l'aborder ce point. C'est important parce que le fait que Jésus-Christ est une pierre d'achoppement est aussi présenté tout au long de la... Disons, il est présenté de façon pratiquement tout aussi importante que le fait que Jésus-Christ est une pierre d'angle. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit aux chefs religieux après leur avoir dit la parole des vignerons? Il a terminé comme cela. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. La notion de pierre d'achoppement est étroitement liée à la notion de pierre angulaire. D'une part, du fait qu'on trouve ces deux notions dans les mêmes passages, mais surtout par le fait que si Jésus est pour les uns une pierre angulaire, il est pour les autres une pierre d'achoppement. C'est soit l'un, soit l'autre. Et on voit bien cette dualité dans Ésaïe 8. Ésaïe 8, les versets 13 et 14, c'est l'Éternel, le maître de l'univers que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Pour celui qui craint l'Éternel, qui le sanctifie, il sera un refuge, un sanctuaire dans la notion du sanctuaire, il y a la notion de refuge justement. Pour les autres, il sera une pierre d'achoppement contre laquelle ils viendront se briser. Pour chacun, Jésus-Christ est donc soit la pierre d'angle, soit la pierre d'achoppement. Alors je pose la question à chacun ce matin, qu'est-ce que Jésus-Christ est pour toi? Est-il la pierre angulaire, celle qui t'unit à l'Église, qui est son corps? Si ce n'est pas le cas, Jésus te dit aujourd'hui, viens, j'ai tout accompli pour ton salut. Tu ne peux pas payer ton rachat, mais je l'ai payé. Je l'ai payé pour toi en particulier. Alors viens, reconnais ta nature si éloignée de Dieu et reçois ce salut magnifique, offert gratuitement. Et nous lisons dans 1 Jean 5, « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. » Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et en conclusion, je vous invite juste à lire un passage dans 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. C'est le passage qui suit ce qu'on a déjà lu. Et c'est vrai que ces promesses sont magnifiques. Elles sont pour toutes les pierres vivantes, pour tous ceux pour qui Jésus-Christ est la pierre angulaire. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à quelques minutes de silence, après quoi je prierai. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es la pierre angulaire, tu es celui qui nous rapproche, tu es celui qui nous rattache à l'Église, à ton corps. Merci Seigneur parce que tu nous donnes des promesses. Merci parce que nous savons qu'elles se réaliseront parce que c'est toi qui les donnes. Merci Seigneur parce que nous pouvons te faire confiance. Et c'est vrai, Seigneur, aide-nous à te laisser toute la place, à te laisser la place dans nos vies, afin que ce soit toi qui nous réunisse, que notre unité soit basée sur ta personne et sur ta présence en nous. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen.
J'ai envie de dire merci Seigneur pour ce qu'on a reçu ce matin, entre le temps de louange et ce temps maintenant. Et c'est vrai que cette idée de pierre d'achoppement n'est pas forcément quelque chose qu'on a à la tête. Je vais vous donner un petit témoignage tout court. Ça fait des années qu'avec Lydie, on s'occupe de préparer la scène. Et puis des années que, comme ça, on a pris l'option de mettre du jus de raisin. Vous l'avez vu, c'est le symbole uniquement. Puis un dimanche matin, je vais chercher mon jus de raisin et zut, j'ai plus de jus de raisin. Ça fait rien, on prend une bouteille de vin et je prends une bouteille de vin et je mets du vin. Et la première personne qu'on croise en arrivant le matin à l'église, c'est une personne qui dit, personne de la Croix Bleue, un abstinent qui dit, je suis venu, qu'on n'avait pas vu depuis des années, qui dit, je suis venu ici ce matin parce que je sais que je pourrais prendre la scène en toute tranquillité. Personne n'a rien vu. On a envoyé quelqu'un au magasin qui était ouvert le dimanche matin. Vous voyez comme quoi il faut aussi qu'il y ait des magasins ouverts le dimanche matin. Et puis on a, pendant un chant, subtilisé la coupe. On a changé, on a mis du jus de raisin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce qui nous parle aussi. J'aimerais qu'on partage les annonces pour cette semaine. Lundi, conseil 19h30. Le même soir à 20h30 chez Emmanuel et Rebecca, préparation pour le club d'enfants. Mardi, 20h30, étude biblique, Néhémie. Je voudrais juste dire qu'on va reprendre l'étude biblique du mois passé. Donc, ceux qui ne sont pas venus le mois passé, vous n'aurez pas perdu, elle est importante. Et puis, comme ça libère aussi les quelques-uns qui étaient là le mois passé. Ils auront une soirée de congé où ils peuvent revenir aussi. Donc, on continue l'étude de la reconstruction des portes de la muraille de Jérusalem. On va bientôt arriver aux choses plus intéressantes, là. Mercredi, chorale. Samedi, groupe de jeunes et dimanche, culte ici avec Sainte-Seine, avec du jus de raisin. C'est tout pour cette semaine. J'ai pas d'autres. Anne-Marie.
Lundi, groupe de dames et nettoyage de l'église. Alors,
tu es sûr pour le groupe de dames parce que c'était pas sur le planning donc.
Oui, non, c'est parce qu'il y a eu un changement de dernière minute avec Formapé, c'est pour ça.
Ok.
Donc, le nettoyage de la cuisine.
Venez à la mienne, hein.
Non, c'est pas la cuisine d'Anne-Marie non plus. Hein. Non, c'est la cuisine de l'église, c'est pour les dames. S'il y a des messieurs qui ont envie, ils peuvent venir aussi aider, il n'y a pas de souci. Je pense qu'elles l'accepteront aussi. Hein. Voilà, j'aimerais vous laisser quelques sujets de prière pour cette semaine aussi. Prions pour les personnes qui souffrent dans l'église, spécialement physiquement. Je pense à Anne-Lise qui est là ce matin encore. Madeleine qui est à la maison mais qui est souffrante, qui n'est pas du tout en grosse forme. Hein. Vous pouvez prier pour Madeleine, allez lui faire une petite visite aussi. Pensez à Hélène aussi à Collonges qui est aussi souffrante. Pensez à Fernande et je dirais à toutes les autres personnes âgées qui sont aussi dans des moments difficiles. Et puis, j'aimerais qu'on prie spécialement cette semaine encore pour Mike. Mike, il est au fond, là-bas. Il est toujours fidèle dans son petit coin. Il a recommencé son travail en début de semaine passée. Je crois qu'on va aussi prier pour qu'il puisse s'accrocher dans ce boulot. Moi, je l'ai vu, dès la reprise de son boulot, il était resplendissant en sortant du travail. C'est peut-être pas souvent notre cas à nous. En tout cas, on va être reconnaissant. On veut continuer, Mike, à te porter aussi. Et puis, peut-être, pensons cette semaine spécialement à tous ceux qui ne l'ont pas dit, mais qui sont en souci pour la semaine qui vient, ou qui savent qu'elle sera difficile pour eux. Je pense qu'on peut aussi crier à notre Dieu qui nous garde les uns les autres, qui nous aide aussi. Et j'aimerais terminer en vous demandant de vous lever. Et puis, je vous dirai des passages. C'est des passages qui sont des passages qu'on trouve au bout des lettres de Paul, et puis qui nous rappellent qu'on doit faire confiance à Dieu. Et je voulais juste avant encore vous dire, si vous êtes intrigué par ce tableau, par cette charte, venez en parler à un des anciens, si vous n'étiez pas là dimanche passé, si vous n'avez pas pu vous joindre à nous pour la réunion de membres du 25, venez en parler à un des anciens, volontiers, on discutera avec vous de ça. Alors à la fin de l'épître de Paul aux Philippiens, on nous lit ça, et ça, c'est le résultat d'avoir mis notre confiance dans cette pierre angulaire. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et par la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et le Dieu de paix, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen.